Les matins de France Culture.
Deuxième partie de ces matins de France Culture, on va se pencher à présent sur les mots utilisés par le Front National entre mutation et invariant. Comment comprendre le discours, la rhétorique frontiste et que révèle-t-il de la stratégie mise en place pour gagner de nouveaux électeurs? Bonjour Stéphane Vaniche.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur en communication politique associé à l'Université Paris-Est Créteil, co-auteur avec Cécile Alduy de Marine Le Pen, Prise aux mots, c'était au Seuil en 2015, mais aussi de Le Pen, les mots, qui était paru à la Découverte, c'était un peu plus ancien, c'était en 1997. Nicolas Offenstadt est toujours avec nous. Nicolas Offenstadt, historien, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Alors, vous avez réalisé, Stéphane Vaniche, un travail d'analyse sémantique assez poussée à partir de très nombreux discours du Front National. D'ailleurs, je crois que vous en avez réservé quelques-uns sur le 1er mai. On verra ça tout à l'heure avec vous. Vous avez utilisé pour ça, évidemment, des logiciels informatiques, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. Votre démarche n'est pas une démarche militante. Votre travail ne sert pas à une forme de dénonciation, mais finalement se contente de décrypter le plus objectivement possible des prises des paroles de Marine Le Pen et son utilisation globale des mots. C'est en tout cas ce qu'on voit en vous lisant, Stéphane Vaniche. Alors, depuis plusieurs jours, on assiste entre les deux candidats au second tour à une véritable bataille autour d'un mot. Le mot patriote. Au lendemain du premier tour, vous vous souvenez, la candidate du Front National, on appelait au rassemblement le plus large des patriotes, et son adversaire, lui, s'était présenté aussi comme le futur président des patriotes. C'était lors de son discours au soir du premier tour, ce qu'évidemment Marine Le Pen a assez largement réfuté. C'était sur France 2, souvenez-vous.
Tout nous oppose. Moi, je suis la candidate patriote, la candidate du peuple, celle qui défend.
Il revendique ce mot aussi, patriote. Vous l'avez entendu.
Mais rien dans le projet de Monsieur Macron, ni dans, même dans son comportement, ne dénote la moindre preuve d'amour pour la France. Il l'a insulté, il l'a accusé de crimes contre l'humanité. Il a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Il conteste en toutes circonstances ce qui fait la sève, l'âme de notre pays. Donc je crois que c'est un mot qu'il utilise parce que probablement un logiciel lui a dit de l'utiliser,
bon,
comme d'autres.
Ma question, Mais Marine Le Pen.
Le patriotisme, c'est de l'amour, c'est un sentiment profond que l'on a ou que l'on n'a pas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne le ressent pas chez Emmanuel Macron, ni à l'égard de la France, ni à l'égard des Français d'ailleurs.
Ouais, le patriotisme, avait-elle dit, c'est de l'amour, un sentiment profond que l'on a ou que l'on n'a pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne ressent pas chez Emmanuel Macron, ni à l'égard de la France, ni à l'égard des Français. Quel regard vous portez, Stéphane Vaniche, sur cette bataille autour du mot patriote? Et est-ce que finalement, et ça peut-être que je demanderai tout à l'heure à l'historien, est-ce qu'on parle du même patriotisme? Et ça, on verra tout à l'heure avec Nicolas Offenstadt. Stéphane Vaniche, cette bataille sémantique autour du patriotisme.
Oui, alors c'est une bataille importante en fait parce que le patriotisme, ça vient du mot père, c'est-à-dire c'est là où les gens vivent, où la famille vit, c'est le pays où l'on vit, le patriotisme, contrairement au nationalisme où c'est là où l'on est né. Naxis, ça vient de Naxis, c'est-à-dire c'est là où l'on est né. Et donc pour Jean-Marie Le Pen, c'était très clair, c'était un nationalisme, c'est-à-dire il s'adressait d'abord aux gens qui sont nés en France, hein, les Français de souche, entre guillemets. C'était assez clair. Pour Marine Le Pen, elle a compris l'enfermement que ça a représenté et donc, du coup, elle a changé le mot nationalisme par patriotisme. C'est-à-dire, elle a un peu élargi, et c'est tout l'effet de son discours, elle a élargi un peu, je dirais, le champ à qui elle s'adresse. Et du coup, il y a un combat parce que aussitôt qu'on est patriote, enfin politique et qu'on veut être président de la République, globalement on est patriote, entre guillemets, dans le sens où on va représenter ses pairs, c'est-à-dire l'ensemble des Français qui vivent dans ce pays. Ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez fait écouter, c'est que Marine Le Pen utilise la sève et l'âme du pays. Et donc là, on se retrouve dans une vision biologique, et donc on revient plutôt vers la nationalité, vers le naxis, c'est-à-dire la vision biologique du pays. Et donc il y a une espèce de tension qui existe dans le discours de Marine Le Pen entre le patriotisme, ensemble des personnes qui vivent dans un pays, et avec l'idée de sève et âme, et sève et âme, ça veut dire qu'on est dans une vision beaucoup plus naturaliste, et donc on va plutôt vers le nationalisme. Alors, si on peut dire, pour finir, on a un patriotisme, je dirais, plus classique et traditionnel pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire je m'adresse à l'ensemble de mes pairs, ou des pairs de France, et Marine Le Pen est a une tendance à aller vers le nationalisme dans son patriotisme.
Nicolas Offenstadt, que vous inspire cette bataille autour du patriotisme? On voit très clairement que là, il y a évidemment plusieurs formes de patriotisme et que on est en présence de deux formes très différentes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nicolas Funstadt.
Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ce soit redevenu un enjeu à ce point-là. Il faut quand même rappeler qu'on ne vit pas dans le monde des années 1970, ni dans le monde des années 20 ou 30. Et si vous voulez, il y a bien d'autres registres. Après tout, il pourrait y avoir plus de batailles autour du sentiment européen, de la construction de ce que c'est qu'un Européen, puisqu'après tout, c'est une des structures dans lesquelles on vit. Alors, on peut la contester, elle a tous les défauts qu'on veut ou toutes les qualités qu'on veut, mais c'est une structure qui est la nôtre. De même, c'est quand même fascinant de voir que Jean-Luc Mélenchon, qui veut représenter la gauche avancée, finalement ne parle que de drapeau et oublie complètement quand même qu'une des références était l'internationalisme quand même, que la gauche n'était pas uniquement la patrie, c'était aussi viser l'internationalisme. Alors ce qui me frappe surtout, et ça c'est un retour quand même de plus en plus marqué hein, depuis quelques années, c'est le jeu, l'usage et le surusage des sentiments identitaires, patriotisme, identité nationale. Donc si vous voulez, ça n'a rien de naturel. On pourrait très bien débattre sur d'autres identités, sur des identités plus larges, plus ouvertes hein. Donc en soi c'est quand même un choix. Ça n'a pas, même pour un président de la République, bien sûr que l'échelle nationale est importante, c'est évident, hein, mais c'est pas la seule. Et donc ce qui est frappant, et ça on voit quand même les effets hein, de cette droite décomplexée, de la crise, du terrorisme, de la violence, hein, c'est-à-dire que finalement on revient à une échelle qui est quand même très limitée, qui est celle de la nation comme définition identitaire.
Ouais, enfin,
donc,
pour moi comme historien... Vous pouvez pas dire qu'on n'a pas élargi les choses, qu'on est resté à l'échelle nationale. Les débats autour de l'Europe ont été extrêmement prégnants, ça constituait l'une des fractures... l'une des plus importantes, sinon peut-être la plus importante.
Mais
entre
pas en termes identitaires, bien
candidats.
Sûr, tout à fait, en termes pratiques, c'est-à-dire est-ce que, en termes pratiques, mais jamais dans la définition, ou très peu dans la définition des identités européennes, et tous ceux qui ont proposé d'avancer vers plus d'Europe, vers la question d'une constitution, vers essayer de faire plus d'Europe au sens pas seulement économique et des hommes d'affaires, ben tout ça c'est des débats qui sont restés très secondaires finalement. Et ce qui est frappant, moi je trouve que ça ne va pas de soi que ces mots reviennent si facilement au cœur du débat.
Stéphane Vanisch.
Oui, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où avant le premier tour, il y avait quand même une fracture importante entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'était mondialisme, européanisme d'un côté et nationalisme de l'autre. Et donc Emmanuel Macron a bien, développé quand même l'idée d'Europe, l'idée de la mondialisation et de la maîtriser, mais en même temps de rentrer dans que la France rentre dans la mondialisation, alors que Marine Le Pen est dans un retour à la nation, au territoire, avec ses frontières. Et donc il y a eu ce débat qui s'est fait. En même temps, on est entre les deux tours. On est à la veille du deuxième tour. Et donc, du coup, en termes de communication politique, Emmanuel Macron va essayer d'être sur le terrain de Marine Le Pen pour la contrer, tout simplement. On est donc là dans un... Non pas quelque chose
de... Voilà, vous venez de le dire.
Oui, non,
c'est elle qui définit le terrain.
Alors, on n'est pas dans quelque chose, je veux dire, de structurel, mais de conjoncturel. En même temps, structurellement, celui qui a commandé l'agenda politique depuis 30 dernières années, c'est Jean-Marie Le Pen et le Front National. C'est-à-dire sur la problématique que l'immigration doit être un problème, qu'il y a un problème de sécurité, que c'est le retour à la nation qui est notre avenir collectif et notre survie parce que la France est dans le déclin et risque de mourir demain. Notamment, j'ai un texte qui dit qu'à l'an 2000, on n'est pas sûr que la France existe encore. On voit bien que... En effet, la parole politique, le discours politique du Front National, que ce soit le père ou la fille, a structuré quand même les représentations collectives de ces dernières années.
Stéphane Vanisch, et je vous donne la parole après à Nicolas Funstadt, mais je voudrais comprendre une chose. Restons sur la question des mots. On est évidemment là dans l'entre-deux-tours, mais si on regarde la campagne 2017 et qu'on la compare à celle de 2012, est-ce que vous avez le sentiment que les mots qui ont été utilisés, la bataille sémantique qui s'est jouée, finalement, était la même en 2012 et en 2017? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui vous semble avoir changé?
En 2012, la problématique, c'était la sémantique de François Hollande, où on était quand même dans des flous artistiques assez intéressants, notamment dans le discours sur la finance, notamment. On était dans un discours quand même complotiste de la finance. C'est quelqu'un qu'on voit pas, qui ne se présente pas aux élections, qui a du pouvoir, etc. Et donc, pour les frontières étaient moins claires, en fait, qu'aujourd'hui. En 2017, entre Emmanuel Macron, d'un côté, Jean-Luc Mélenchon aussi de l'autre, et Marine Le Pen, on est quand même dans une montée de tension extraordinaire, et avec des discours quand même... avant le premier tour, il y a des discours très très clairs, notamment entre Emmanuel Macron sur la défense de l'Europe. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu un discours sur la défense de l'Europe lors d'une élection présidentielle. François Hollande l'a très peu fait en 2012. Et Marine Le Pen qui est restée là dans une logique constante sur le rapport à la France et le rapport à l'Europe.
Il y a peut-être une différence aussi à relever, c'est tout le vocabulaire autour de l'économie. On a vu apparaître chez elle tout un champ lexical autour des questions économiques. Mondialisation, zone euro, austérité, monnaie, ultralibéralisme, commerce, importation. Exportation, toutes ces choses-là, on voit une attention très particulière portée au thème économique qui, pendant longtemps, était vu comme l'un des points faibles du Front National. Et on a vu peut-être les efforts, mais là, je ne sais pas si l'analyse des mots précisément le révèle également, un effort sur les questions économiques.
Alors, Il y a une espèce de révolution entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen sur la question économique, c'est que Jean-Marie Le Pen est un libéral, économiquement parlant, et Marine Le Pen a repris une tradition d'extrême droite sur, je dirais, une reprise quasiment de l'extrême gauche dans son programme économique. Et donc, en effet, le discours économique, d'un côté, est plus important chez Marine Le Pen, mais je dirais qu'il est plus, utilisé à des fins de politique de court terme que à une logique, je dirais, idéologique. C'est-à-dire que Marine Le Pen va essayer d'attirer un certain nombre de voix d'extrême gauche, c'est son enjeu aujourd'hui, par le programme un peu de Jean-Luc Mélenchon et avec les mêmes
mots. On va y venir tout de suite. Nicolas Funstadt.
Oui, pour revenir à cette question, finalement, quelles sont les spécificités? On dit, il y a un débat autour du patriotisme, évidemment, c'est d'une certaine manière à la fois très banal et en même temps très neuf par ses retours. Il y a quelque chose qui me frappe quand même dans cette campagne et qui va dans le sens de notre discussion, c'est un autre terme qui est employé par tous les candidats, y compris Emmanuel Macron, c'est la défense d'un roman national. Donc on est quand même dans quelque chose de nouveau, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait se battre aujourd'hui pour raconter une histoire nationale qui, on ne sait pas où, aurait disparu, se serait affaiblie ou n'aurait pas la force qu'elle devrait avoir. Et je regardais encore, évidemment, avant cette émission, le programme du Front National de Marine Le Pen pour 2017. Le point 97, c'est, je cite, « renforcer l'unité de la nation par la promotion du roman national ». Par la promotion du roman national et le refus des repentances d'État qui divisent. Donc il y a quand même là une bataille qui est de plus en plus marquée, hein, autour d'un récit d'histoire de France, qui est un récit national, qui est un récit qui se veut une légende finalement nationale. Donc là, c'est quelque chose qui s'affirme depuis quelques décennies de plus en plus marqué. Et là, c'est quasiment au cœur de la campagne. François Fillon, on avait fait un axe très fort aussi de son discours. Il faut enseigner l'histoire à l'école, une histoire de France, une histoire qui rend fier. Hein. Et donc là aussi, c'est vrai que c'est le Front National qui en partie imposait ces thèmes, mais c'est aussi la droite décomplexée de l'époque Sarkozy. Donc je crois que ce nous aujourd'hui autour de la nation, quelque chose de nouveau, hein, et qui se projette dans un passé angoissé, et qui encore une fois n'a rien à voir avec une discussion critique sur ce que c'est que la nation, mais qui est surtout une réponse à des peurs et des angoisses.
Stéphane Vanisch, regardons un petit peu ce qui se passe dans la bataille sémantique entre le Front National et la gauche radicale, et notamment celle de Jean-Luc Mélenchon. Parce que dès le lendemain du premier tour, le FN s'est lancé évidemment dans la bataille pour essayer d'attirer les électeurs qui s'étaient dirigés vers Jean-Luc Mélenchon. Et on avait notamment vu circuler ce tract que j'ai sous les yeux sur les réseaux sociaux, sur lequel on pouvait lire « L'avenir en commun, c'est aussi avec Marine », avec d'un côté un certain nombre d'éléments du programme de Jean-Luc Mélenchon et de l'autre ceux de Marine Le Pen. Et on voyait les points considérés comme semblables, même si quand on gratte un tout petit peu, on voit qu'il y a des nuances. Mais en tout cas, dans l'affichage, dans les mots utilisés, on voit très clairement, visuellement, physiquement, justement, les parallèles, sortir de l'OTAN, sortir de Schengen, abrogation de la loi El Khomri, égalité salariale femmes-hommes, et j'en passe. Et puis en pied d'affiche, on avait ce message insoumis, ne vous trompez pas de combat, ne votez pas pour Macron. Que vous inspire, Stéphane Vanisch, cette stratégie de récupération qui la passe par les mots, par les formules qui sont censées résonner, évidemment, chez ces électeurs de cette gauche de Jean-Luc Mélenchon?
Chez Marine Le Pen, il y a un côté coucou discursif, c'est-à-dire qu'elle va reprendre les mots des autres pour les mettre à sa sauce, mais prendre les mots des autres. Et sur le thème économique, parce que quand on regarde ce tract, ou je sais pas l'objet exact, c'est un tract ou juste sur Internet, on s'aperçoit que c'est d'abord sur le projet économique que les deux parties, entre guillemets, se rejoignent. Et en fait, pourquoi? Parce que historiquement, depuis 2012, Marine Le Pen va reprendre systématiquement les thèmes et les mots du Front de Gauche au départ, puis les Insoumis aujourd'hui, pour ce deuxième tour, en fait. Hein, c'était déjà un calcul dès le départ, c'est-à-dire que sur le thème économique, elle ne va pas développer son propre vocabulaire ni son propre projet, elle va le copier-coller quasiment avec celui de l'extrême-gauche française pour pouvoir, justement, à des fins électorales, les récupérer.
Et ça, c'est nouveau ou c'est ancien? Parce que vous expliquez une chose très intéressante dans votre livre, c'est qu'en réalité, le Front National a enclenché une forme de révolution sémantique avant même l'arrivée de Marine Le Pen. Vous expliquez qu'il y a eu cette offensive sémantique du temps de Bruno Maigret qui avait essayé de rénover un peu l'image du parti en disant précisément quels étaient les mots et les formules qu'il ne fallait plus utiliser et celles qu'il fallait désormais utiliser.
Alors, la révolution sémantique, en effet, a commencé avec Bruno Maigret, mais bon, ça n'a pas eu un succès extraordinaire, et parce qu'il faut à peu près le logo, la marque Le Pen pour y arriver. Et Marine Le Pen, en effet, a repris un peu cette logique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Globalement, elle va amoindrir son discours, le rendre moins violent pour le rendre plus acceptable. C'est-à-dire qu'elle va pas accuser les immigrés, mais l'immigration, qu'elle va qualifier de sauvage, incontrôlée, etc. Donc on va avoir les mots de la peur d'un côté, mais on va s'attaquer à des concepts et jamais à des individus. Et d'ailleurs, dans certains passages de ses discours, les immigrés sont quasiment les victimes aussi de la mondialisation comme les Français. Et donc, elle va pas s'attaquer à des personnes, alors que chez Jean-Marie Le Pen, on avait une attaque systématique sur des gens quasiment à abattre, entre guillemets. Et donc, on va
au-delà de ça, pardon de vous couper, mais vous expliquez qu'il fait passer une note interne dans laquelle il explique qu'il faut plus dire les masses, mais les peuples, qu'il faut pas parler de classe, mais de catégorie socio-professionnelle, qu'il faut pas parler de lutte, mais de combat. Comment comprendre ça?
Tout simplement,
ce glissement sémantique.
C'est pour rendre moins violent le discours, pour qu'il devienne acceptable. C'est-à-dire qu'on va baisser d'un cran, on va dire, la violence du discours. On va plus faire de réflexion antisémite, ni de jeu de mots nauséabonds, de telle manière que le discours du Front National devienne de plus en plus acceptable parce que, entre guillemets, démocratisé. Alors la surprise de l'étude de tous les textes avec Cécile Alduy dans ce livre, c'est qu'en fait, sur les thèmes, sur le fond, ça n'a pas changé. C'est-à-dire le rapport à la nation, le rapport à l'autre, le rapport à l'étranger n'ont pas changé. Mais la façon de le dire a évolué de telle manière que ça résonne de manière, comment dirais-je, plus doux à l'oreille des Français.
Nicolas Fenstadt.
Oui, ce qu'il faut rappeler, si vous voulez, là, du point de vue historique, c'est qu'il y a toujours eu, depuis le 19e siècle, pour ne pas remonter trop loin, dans l'extrême droite, une volonté d'avoir une extrême droite populaire. Une extrême droite populaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Donc en ce sens, si vous voulez, la captation de thèmes qui peuvent se rapprocher ou qui donnent l'apparence d'être pris à l'extrême gauche, c'est aussi une vieille tradition de cette droite, qui a été une droite syndicale avec les jaunes, qui a été... Il y a eu tout un ensemble de tentatives de faire de l'extrême droite un grand mouvement populaire. Et d'une certaine manière, puisqu'on est le 1er mai, c'est toute l'histoire de cette fête du Front National. La fête du 1er mai, le mettre le jour de la fête des travailleurs, c'est évidemment montré, et Karl Lang l'avait dit très clairement à l'époque, on fait ça parce que, évidemment, on va capter la dimension populaire, la dimension de lutte du 1er mai. Donc là encore, au-delà des mots, c'est évidemment une stratégie, en se positionnant le 1er mai, qui est évident dans son symbole depuis très longtemps, le Front National montre que finalement, la défense du peuple, c'est lui aussi, et qu'il n'y a pas besoin de la gauche pour incarner ce peuple que le parti défend.
Stéphane Vanisch, pour venir ici aujourd'hui, d'ailleurs je vous remercie d'être là un 1er mai, vous avez vous réalisé un travail, justement un travail d'analyse autour des discours du 1er mai. Qu'est-ce que vous avez noté de si particulier dans l'évolution des mots utilisés ?
Alors d'abord, le 1er est un prétexte pour le Front National, c'est-à-dire qu'en effet, d'un côté, il y a eu un changement de date au début, Jean-Marie Le Pen fêtait Jeanne d'Arc le 8 mai. Enfin, le deuxième dimanche du mois de mai.
C'est la libération d'Orléans.
Tout à fait. En même temps, le 8 mai bouge un peu selon les dimanches, quoi. Mais à partir des années, je ne sais plus très bien, j'ai pas retrouvé 93, un truc comme ça. Jean-Marie Le Pen va changer la date de la fête de Jeanne d'Arc pour le mettre le 1er mai, et au début pour Jean-Marie Le Pen, c'est pour effacer la gauche de ce jour-là. C'est-à-dire effacer la lutte des travailleurs au profit d'une lutte nationaliste. Et Marine Le Pen, elle, va mélanger les deux, c'est-à-dire qu'elle va parler de la lutte du 1er mai, de la lutte des travailleurs, de la grève de Chicago, etc. Et agglomérer...
Elle fait la synthèse.
Elle fait la synthèse, ou elle agglomère, on va dire, parce que la synthèse est compliquée quand même, mais elle va agglomérer la lutte des travailleurs historiques avec la lutte nationaliste de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire qu'elle a sauvé la France, etc. Alors, quand on regarde les discours, on a toujours la même structuration, c'est-à-dire qu'il y a un véritable prétexte à cette fête de Jeanne d'Arc pour le Front National, que ce soit Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, et là, ça a peu changé en fin de compte. C'est d'abord l'éthos du candidat, c'est-à-dire que le candidat va se présenter, c'est celui qui sait. Donc Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, les deux, vont expliquer qui est Jeanne d'Arc, la grande Jeanne, ce qu'elle a fait à 18 ans, 19 ans, etc. Elle a sauvé la France. Et aussitôt, elle va dire, c'est un peu comme nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Front National est le Jeanne d'Arc du moment de notre époque. Et en même temps, c'est aussi pour faire le bilan de l'année. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de compte-rendu de l'activité.
Une sorte de discours à la nation, d'une certaine manière.
C'est exactement, une sorte de discours à la nation à l'américaine, et aussi un effet de légitimation de l'idée nationaliste à travers le personnage de Jeanne d'Arc, bien sûr.
Nicolas Fenstadt, fête du 1er mai 2007. Jean-Marie Le Pen déclare la chose suivante, je le cite. « Notre insuccès arithmétique masque une victoire idéologique évidente, puisque tous les candidats ont peu ou prou, Sarkozy avec le culot d'un joueur de bonneteau, basé leur campagne sur les valeurs qu'à contre-courant nous défendons depuis des décennies. La nation, la patrie, l'ordre, la sécurité, le travail, la famille, l'avenir de la France et des Français, et même Jeanne d'Arc, dit-il. » Là où Jean-Marie Le Pen a raison, d'une certaine manière, et là où il a dit juste, c'est qu'il y a ces dernières années, c'est vrai, une incroyable viralité du discours frontiste, à droite évidemment, mais même au-delà. Nicolas Funstadt.
Oui, absolument. Ceci dit, dans l'énumération que vous venez de dire, et on l'avait rappelé dans la première partie de cette émission, c'est le Front National qui capte aussi des valeurs qui étaient celles de la République. Hein. Il faut rappeler que Jeanne d'Arc, hein, c'est une fête républicaine, encore une fois, célébrée par tous les dirigeants de la République française depuis les années 20.
C'est l'idéal républicain, en réalité.
Absolument, ça a été construit comme tel. Ensuite, on peut discuter, évidemment, des projections républicaines sur Jeanne d'Arc, c'est un autre débat. Mais quand Le Pen dit la patrie, la nation, ou Jeanne d'Arc, c'est nous, c'est évidemment une captation d'héritage, puisque la notion de patrie dont on a parlé tout à l'heure de manière contemporaine, c'est une notion qui a été à gauche, qui a été à droite, qui a été évidemment centrale dans les grands moments de lutte. La patrie, c'est la notion, évidemment, une notion centrale en 14-18, pendant la guerre, c'est une notion centrale de la résistance, hein, dont Jean-Marie Le Pen n'est pas un héritier direct. Hein. Il assume lui-même d'avoir intégré dans le Front National les parias. C'est-à-dire ceux qui étaient justement hein, les collaborateurs, même des membres de la LVF. Donc si vous voulez, quand, il ne faut pas non plus prendre son discours au mot hein, quand il explique que c'est lui qui illustre ses valeurs. Ce sont des valeurs qu'il a travaillées, qu'il a réutilisées, qu'il a mis à la sauce qui, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, hein, est quand même constante, c'est-à-dire le refus de l'autre, le refus de l'immigré. Donc ensuite, c'est sûr que la manière dont ça a été fait a donné le ton au débat politique, mais on a vu, et ça c'était intéressant à l'époque de Sarkozy, que toute cette notion de droite décomplexée, c'est finalement effectivement hein, de jouer avec les valeurs que le Front National a réussi à mettre en avant et de les récupérer. Et d'ailleurs, puisque notre émission, c'est celle consacrée à Jeanne d'Arc, il est frappant de dire que Sarkozy, d'abord pendant la campagne présidentielle, puis ensuite pendant son mandat, a dit très clairement, hein, Jeanne d'Arc, ce n'est pas le Front National, Jeanne d'Arc, c'est une valeur générale, et donc c'est d'abord la sienne, évidemment. Hein, donc il y avait vraiment un combat qui a été fait. Donc je crois que c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu quand même une réponse de la droite, qui était la réponse Sarkozy, qui était de dire, on va reprendre toutes ces valeurs au Front National.
Stéphane Vanille, sur cette question de la viralité du discours du Front National, et puis peut-être, pour poursuivre un tout petit peu sur ce plan-là, la place aussi d'un homme qu'on n'attendrait pas forcément, c'est Antonio Gramsci, penseur communiste, et on voit qu'en réalité, chez le Front National, on se réfère assez régulièrement à Antonio Gramsci. Il y a 10 ans, par exemple, au soir du premier tour, duquel il avait pourtant été exclu, Jean-Marie Le Pen avait déclaré « Ce soir, nous avons gagné la bataille des idées, la notion de patriotisme, l'immigration et l'insécurité ont été mis au cœur de cette campagne qui, hier encore, écartait ces notions d'une moue dégoûtée. » Et en réalité, Gramsci, avec cette idée selon laquelle, au fond, les victoires idéologiques précèdent les victoires politiques, c'est ni plus ni moins que ce que disait à l'époque Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le Front National est le grand vainqueur de la bataille des idées ? Et est-ce qu'au fond, même si Marine Le Pen ne l'emportait pas là, il faut s'attendre à des victoires prochaines, ou à une victoire prochaine ?
Oui et non. C'est-à-dire que victoire des idées, en partie en tout cas, victoire des priorités. C'est-à-dire que si on a un retour à la notion de patriotisme, c'est un retour de Jeanne d'Arc, etc., une bataille autour de ça, c'est d'abord lié à des détournements du Front National. Il faut en parler aussi tout à l'heure peut-être de la laïcité, de la souveraineté, etc. Ce sont quand même des thèmes délaissé par le camp démocratique, je dirais de manière globale, gauche comme droite, et repris du coup et remis en activité par le Front National. Donc là, il y a cette idée de détournement. Et c'est vrai que pour Jean-Marie Le Pen, ce qui n'est pas automatiquement vrai pour Marine Le Pen, pour Jean-Marie Le Pen, la bataille politique est d'abord là une bataille idéologique. C'est-à-dire que... à mon avis, il a réussi en grande partie, dans le sens où les représentations collectives des problèmes de la France sont liées directement au discours de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire immigration, sécurité, Europe, etc., sont des thèmes développés depuis 30 ans maintenant par Jean-Marie Le Pen. Alors, pour Marine Le Pen,
c'est... Une bataille idéologique, mais vous parlez même d'une OPA sémantique sur un vocabulaire républicain, voire de gauche.
Alors, ça, c'est Marine Le Pen, justement. Pour Marine Le Pen, elle va évoluer en un... Elle pense que la bataille des idées est gagnée par son père, donc elle a plus besoin d'y aller plus que cela. Deux, elle va en effet là faire des détournements de mots, va reprendre un vocabulaire de gauche, un vocabulaire républicain, pour les détourner, leur changer leur sens, et pour pouvoir justement rendre son discours acceptable. Et là, il y a Jeanne d'Arc, bien sûr, mais il y a la notion de laïcité, qui est complètement détournée dans une logique anti-islamisme. Mais il y a aussi la notion de liberté, qui ne s'appelle pas... La liberté pour Marine Le Pen, c'est pas les libertés individuelles, c'est la souveraineté de la France, ce qui n'a strictement rien à voir.
Nicolas Offenstadt, on arrive presque au terme de cette émission, je vous en prie.
Oui, je crois qu'il faut faire attention. La force, effectivement, du Front National, c'est peut-être pas d'avoir gagné la bataille des idées. Hein. On voit quand même que, après tout, électoralement et même intellectuellement, elle est loin d'avoir gagné. Mais par contre, c'est d'imposer les termes à l'agenda. C'est ça, le problème. Et c'est là où... On souriait effectivement des dénonciations tout à l'heure médiatiques de Jean-Luc Mélenchon. Mais là, effectivement, il y a un vrai enjeu, c'est qui a permis et comment a fonctionné le fait que la mise à l'agenda des questions de Jean-Marie Le Pen ait si bien fonctionné. Je pense que la bataille des idées, elle est encore en train de se mener. Hein, elle n'est pas perdue. Il y a quand même, en France, heureusement, bien d'autres points de vue qui luttent, hein, chez les intellectuels, chez les ouvriers, chez les travailleurs, partout. Mais hein, c'est vrai que cette mise à l'agenda, elle a puissamment aidé à faire avancer les idées du Front National.
Merci messieurs, puis on verra évidemment ce que donneront ces idées dans les urnes, ça sera dimanche prochain. Un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Stéphane Vanisch, Nicolas Offenstadt, on mettra bien sûr les références de vos ouvrages, qui sont très nombreux, sur le site des Matins. Un grand merci à vous.